Voilà, alors donc nous consacrons cette troisième halte spirituelle de l'année, donc à la troisième vertu morale, à savoir la vertu de justice. Et puisque nous avons pris, pour des raisons que j'avais données je crois la première fois, mais saint Thomas d'Aquin pour guide, eh bien il faut savoir que dans l'ensemble de la somme de théologie de saint Thomas d'Aquin, c'est le traité le plus important. Pas simplement de la partie morale de la somme de théologie, mais de l'ensemble de son œuvre, hein, de cette grande synthèse de théologie, eh bien, c'est le traité sur la justice qui prend une place très, très importante. Et donc, c'est dans sa théologie morale la partie la plus développée. Et puis, je dirais que bah, la question de la justice est d'une brûlante actualité ecclésiale, parce que effectivement, une des manières d'analyser la crise que connaît l'Église aujourd'hui, eh bien, c'est d'y voir effectivement, d'abord et avant tout, même s'il n'y a pas que ça, mais de graves manquements aussi à la vertu de justice et à l'exercice pratique de la justice dans l'Église. Et cette situation que nous connaissons aujourd'hui, justement, nous permet peut-être de rompre avec ce que j'appelle un surnaturalisme, hein, ou un certain angélisme, qui, eh bien, nous, enfin, le fait de rompre justement avec cet angélisme, eh bien, doit nous permettre de prendre en compte ben, une réalité qui s'appelle le péché, que nous avons parfois un peu oublié, et que ben, nous sommes tous marqués, hein, même si nous sommes baptisés, mais nous avons encore à assumer les conséquences du péché originel, qui fait que nous avons cette nature donc marquée par cette faiblesse, cette incapacité à résister au mal, et que ben, même les baptisés n'en sont pas exempts, y compris les clercs et les religieux. Et la miséricorde est au service de l'établissement d'une justice parfaite, qui intègre aussi la dimension de réparation, la dimension de salut, la dimension de réparation. Enfin, durant tout le temps de Noël, nous avons chanté que Jésus était notre sauveur, qu'un sauveur nous est né. Eh bien, ce sauveur, il vient nous sauver. Il faut peut-être revenir aussi au sens des mots, c'est-à-dire qu'il vient nous sauver d'une réalité qui, de soi, nous conduisait à la mort et à notre perte éternelle. Voilà ce dont le Christ nous a sauvés. La justice est d'ailleurs un des thèmes centraux, je dirais, de l'Ancien comme du Nouveau Testament. Certes, elle est surnaturalisée par la charité, mais elle n'est pas remplacée ou suppléée par celle-ci. Je dirais que ce qui est vrai de la crise de la pédophilie l'est tout autant de la question de l'exercice de l'autorité dans l'Église. Et donc, elle concerne cette réflexion sur la justice, tout à fois les responsables, c'est-à-dire ceux qui exercent une autorité, suivant leur champ de compétences et la mission de chacun, mais aussi ceux sur qui s'exerce cette autorité. Parce que, effectivement, il faut se rappeler de abusus non tollit usum, l'abus ne supprime pas l'usage. Il n'en faudrait pas que, pour le coup, on en vienne à contester et l'autorité en son principe et l'exercice de la vertu de justice. Sinon, on risque fort d'arriver à une situation anarchique, pour citer quelqu'un qui n'est pas un père de l'Église, mais Jaurès, vous savez, quand il disait le libéralisme, c'est le renard libre dans le poulailler libre, cela signifie bien qu'un monde où il n'y a pas de justice, eh bien, ce n'est pas le monde de la charité, mais c'est le monde où va régner la loi du plus fort ou la soumission à l'idéologie du moment.
Ça, on va
y revenir un petit peu durant tout le... Mais ce que je veux dire, c'est que la charité ne supplée pas la justice. D'abord parce que c'est un thème qui est très présent dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Par exemple, justement, saint Joseph, dont on parlait il y a un instant, il nous est présenté comme l'homme juste. C'est-à-dire l'homme toujours, comme je vais le dire dans un instant, ajusté à la volonté de Dieu. Mais effectivement, les vertus naturelles sont comme reprises, sont comme par la vie surnaturelle. Mais la vie surnaturelle n'est pas là pour abolir l'exercice normal de nos facultés. Donc, l'homme chrétien, certes, vit de foi, d'espérance et de charité, Hein, comme on avait dit, on avait défini ce qu'était la notion d'habitus, hein, cette participation à la vie même de Dieu. Mais il reçoit aussi une capacité nouvelle. Il doit mettre en œuvre les vertus morales de justice, de prudence, de force et de tempérance pour être fidèle, justement, à la grâce de la charité. Voilà. Mais ça, on va le voir, ça va nous... et puis ça pourra faire l'objet peut-être de notre dialogue demain en fin de halte spirituelle. Alors, actualité donc de l'Église, mais aussi actualité politique, hein, puisque bah, voilà, dans la perspective des prochaines élections, alors il n'y aura aucune consigne de vote donnée, mais simplement le rappel que la mission des gouvernants est bien d'exercer leur autorité selon la justice. Et la mission du législateur, alors ça c'est plutôt la mission de l'exécutif, mais la mission du législateur, puisque nous allons élire tout à la fois le président de la République et les députés, quelques semaines après, eh bien, le législateur a pour mission d'établir des lois selon la justice. Et donc, ben, c'est peut-être intéressant de nous interroger sur ces notions de justice, de droit et de loi. Mais nous n'oublions pas non plus que la justice est une vertu. C'est-à-dire qu'elle bonifie celui qui l'exerce. Donc il ne suffit pas pour être juste de poser des actes justes, même si c'est important, parce qu'on peut très bien exercer la justice par pure convenance personnelle ou par avantage personnel. On en a un bel exemple dans l'Évangile, vous savez, à propos de la veuve importune qui vient demander au juge « mais rends-moi justice ». Et le juge reconnaît lui-même « je me fiche complètement des hommes et je me moque de Dieu, mais enfin, je vais lui rendre justice pour qu'elle arrête de me casser les pieds ». Biblique dit prudemment et voilà qu'elle arrête de me casser la tête. Bon, mais voilà, il est évident que le juge, on peut penser que dans le cas d'espèce, le juge va poser un jugement juste, mais c'est pas du tout l'exercice de la vertu de justice dans ce cas-là. Elle est donc d'abord une disposition intérieure, et elle suppose donc la vertu de prudence qu'on a étudiée la dernière fois. Parce que la prudence nous donne de discerner les moyens à mettre en œuvre pour mener une action juste et féconde. Ah bah oui, Dieu merci, c'est le cas de le dire.
Est-ce que la justice qu'on exerce, justement, elle n'est pas... est-ce qu'on est capable... Voilà, moi, c'est la question que je pose en tant qu'homme, est-ce qu'on est capable de... Est-ce que je suis capable d'exercer une vraie justice, une justice qui est désintéressée, une justice qui est objective, une justice qui est charitable, enfin,
voilà. On doit y tendre.
Elle reste humaine.
Voilà, oui, alors c'est ça. Elle reste humaine, elle reste limitée.
Quelle est la question des limites de cette justice?
Elle reste limitée, elle reste. Mais Dieu
nous. Elle est temporelle, elle est temporelle.
Oui, mais par sa grâce, Dieu nous donne les moyens d'accomplir sa volonté. Hein? Et effectivement, ben, il vaut mieux avoir en face de soi Saint-Louis comme juge que Fouquet d'Inville, par exemple. Vous voyez? Bon, ben, c'est. Mais effectivement, elle reste quand même limitée. Enfin, on peut admirer la sagesse d'un Saint-Louis, mais on ne peut pas dire qu'il ait toujours été au maximum de ce que pouvait être un acte juste. Hein. Mais justement, le principe même de la vertu, c'est que nous grandissons dans la vertu par l'exercice. Voilà, par l'exercice. Ouais, ouais. Et puis, ben, effectivement, il y a l'erreur. Alors, le tout est de savoir si est-ce qu'on s'est trompé volontairement. Enfin, c'est toutes les questions liées aussi à la conscience. Mais ça, on le verra quand on verra justement la justice légale, hein, l'exercice de la justice. En tout cas, on doit attendre à ce que saint Thomas d'Aquin appelle l'ordre juste. Hein, l'ordre juste, eh bien, se doit de respecter la justice de chacun. Alors, quelle est la caractéristique de la justice par rapport à toutes les autres vertus, les trois autres vertus morales? Eh bien, c'est que c'est la vertu altruiste par excellence. Hein. C'est qu'elle nous tourne. Alors, vous voyez, la prudence, on avait dit, ben, c'est la vertu la plus intellectuelle. Même si elle s'applique aux choses concrètes, mais c'est la vertu la plus intellectuelle. La vertu de justice, elle s'exerce à l'égard du prochain, à l'égard de l'autre, même Dieu, même à l'égard de Dieu. Et c'est ce qu'on appelle la vertu annexe de religion, qu'on n'aura sans doute pas le temps de voir. Alors, chez saint Thomas d'Aquin, la vertu annexe, c'est pas comme vous savez, l'annexe, c'est la petite pièce à côté. Non, ça peut être très important. Mais ça veut dire que la vertu annexe emprunte quelque chose à la vertu principale, la justice, mais elle en diffère aussi par autre chose. Et il y a trois vertus qui nous mettent en relation avec un autre, mais cet autre, on ne pourra jamais lui rendre tout ce qu'on lui doit. Il y a trois types de réalités. Il y a les parents, donc on ne pourra jamais rendre, et c'est la vertu de piété, de piété filiale, on ne pourra jamais rendre à nos parents le fait qu'ils nous aient donné la vie. La patrie, donc on est toujours en dette par rapport à notre pays. Et ultimement, Dieu, et c'est la vertu de religion. Vous voyez, c'est très intéressant parce que la vertu de religion, c'est une vertu naturelle. Il est naturel pour l'homme d'être religieux. Au-delà de tout, ou à côté de toute considération, est-ce que Dieu s'est révélé ? Mais il est naturel pour l'homme, l'homme exprime son humanité en étant religieux, c'est-à-dire en manifestant son rapport à l'infini. Voilà. Alors, ça encore
une fois. J'entends ce que vous dites, c'est-à-dire que la justice ne peut s'exprimer qu'en se tournant vers
oui,
l'autre. Oui. Sa vocation, son objet, c'est justement de s'intéresser à l'autre. Voilà. Mais est-ce que je pense à une image dans la Bible ou peut-être que je me trompe très très loin, la loi du talion, quand on.
Ben, alors la loi du talion, pour anticiper.
Non, mais c'est
en fait c'est déjà un progrès parce que dire œil pour œil, c'est exprimer, et d'ailleurs notre système judiciaire ou juridique fonctionne sur ce principe-là, c'est-à-dire sur un parallélisme, une certaine proportion entre le crime ou le délit commis et la punition, parce que avant c'était pas œil pour œil, c'est œil pour vie, c'est-à-dire tu me crèves un œil, je te tue. Bon, dire tu me crèves un œil, je te crève un œil, ça établit déjà une forme d'équilibre. Alors après, encore une fois, c'est vrai que la justice évangélique va nous inviter au pardon et à la réconciliation, mais elle n'enlève rien des exigences de la justice, comme on va le voir. Parce que si quelqu'un a été atteint dans son honneur, dans ses biens matériels ou spirituels, voire dans sa vie, c'est pas... Bien sûr, il peut pardonner. Mais il n'empêche que le bien de la société exige qu'il soit rétabli dans ses droits. Et c'est ça l'exercice de la vertu de justice. Alors, vous voyez, donc il existe des vertus qui empruntent quelque chose de la vertu à la vertu de justice, mais qui la dépassent considérablement. Alors, à l'égard de toutes ces réalités, c'est la vertu de justice qui me donne de me situer dans une communauté. Là aussi, c'est très important. D'abord, ma famille. Ça peut être ensuite une communauté d'études ou de travail, une collectivité locale, ma patrie et la grande famille humaine. Donc à l'égard de toutes ces réalités-là, j'ai des devoirs. Et donc j'exerce la vertu de justice en m'insérant dans un ensemble qui me fait grandir, qui me fait devenir homme, et donc qui me donne d'exercer mes potentialités, mes virtualités, mes talents. C'est aussi ce qu'on avait vu, c'est que la vertu est une réalité en moi qui est potentielle. Mais elle ne se développe en moi que si je l'exerce. Alors, c'est vrai pour les choses de l'esprit. On a tous en soi la capacité d'apprendre une langue, d'apprendre un art, d'apprendre une technique. Bon, mais nous avons tous en nous aussi la capacité d'apprendre à être homme. Et c'est par l'exercice des vertus que je m'humanise. On l'avait vu la dernière fois, mais là, pour la vertu de justice, donc développer chez les enfants et les jeunes le sens de la justice, est un élément essentiel de l'éducation. Et donc, en exerçant ainsi mes potentialités, mes virtualités, eh bien, je contribue à enrichir ce que j'ai reçu. Donc, une civilisation, une culture, un art de vivre. Et donc, je cherche aussi à mon tour à transmettre, à communiquer, parce que c'est justement par la culture et la civilisation que l'homme s'humanise, et qu'à son tour, chacun peut prendre sa place dans la communauté humaine. Vous voyez, c'est extrêmement riche quand même. Alors, d'un point de vue biblique, être juste, en fait, c'est justement être ajusté. Apprendre à être ajusté à Dieu pour être ajusté aux autres. Sinon, quand il y a cette absence de justice, eh bien, les rapports deviennent très vite des rapports de domination convoitise. On voit très bien ça dans le récit d'Adam et Ève, hein, quand les malédictions tombent sur Adam et Ève, et cette parole assez mystérieuse de Dieu. Mais à partir du moment où la relation originelle, la communion originelle est perdue entre l'homme et Dieu, par la désobéissance, eh bien, les rapports entre l'homme et la femme, qui étaient des rapports de confiance, de don mutuel, hein, caractérisés par le fait que, bibliquement, on dit qu'ils étaient nus, qu'ils n'avaient pas honte l'un devant l'autre, eh bien, se transforment, hein, en un rapport de convoitise et de domination. C'est-à-dire, ta convoitise te portera vers ton ami, ton mari, et lui dominera sur toi. Et Jean-Paul II, dans ses catéchèses, montre très bien que, dans sa théologie du corps, qu'en fait, c'est effectivement un rapport de domination et de convoitise réciproque. Ce qui était transparence et don devient convoitise et domination. Et puis, si on poursuit l'histoire biblique, la haine fraternelle entre Caïn et Abel, et puis enfin, l'exploitation du prochain et du pauvre. Alors là, c'est situé historiquement, mais par exemple, l'infidélité d'Israël à l'Alliance, célébrée au désert, promulguée par le Seigneur, eh bien cette infidélité, c'est-à-dire Israël manifeste qu'il est incapable de vivre le mystère de l'Alliance, eh bien aboutit à l'asservissement de son frère de race et de religion. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir, alors qu'Israël a lui-même été un peuple esclave, eh bien, il va en quelque sorte redupliquer cette disgrâce originelle, hein, en manifestant, enfin, en établissant un système inégalitaire qui fait que pour survivre, certains devront se vendre en esclaves à leurs propres frères de religion. Et ça, c'est la grande protestation prophétique, hein, que l'on trouve dans la Bible. Et les prophètes, ce sont à la fois les champions des droits de Dieu, parce qu'ils rappellent les exigences de l'Alliance, et des droits du pauvre. Parce qu'à partir du moment où vous fermez à Dieu, eh bien, vous allez aussi fermer votre cœur à votre frère. Enfin, il ne peut y avoir d'ordre juste, ou plutôt on ne peut travailler efficacement à son établissement, donc sans prendre en compte cette condition existentielle de l'homme qui est d'être marqué par le péché. Et donc, de ce point de vue-là, l'exaltation d'un certain humanisme qui serait immaculé dès sa conception aboutit en fait justement à l'angélisme ou au cynisme. Et curieusement, même après les drames génocidaires du XXe siècle, la mentalité occidentale, notre mentalité, y compris chez les chrétiens, conserve quelque chose de l'humanisme du siècle et des Lumières, c'est-à-dire dans un progrès déraisonnable, hein, ou en tout cas de penser que le progrès de la science fera que tous nos problèmes seront réglés. Or, qu'est-ce qu'a révélé le XXe siècle ? Qu'est-ce que le XXe siècle, sinon le génie technique mis au service de l'asservissement ? C'est la phrase de Raymond Aron là, à propos d'un président de la République mort il n'y a pas très longtemps, hein, mais il disait ce jeune homme est très brillant, mais il risque d'échouer parce qu'il ne sait pas que l'histoire est tragique. Donc voilà, donc de prendre en compte en fait le tragique de l'existence. Alors maintenant j'en viens effectivement à la vie de la grâce. Effectivement, la justice est appelée à être sanctifiée par la grâce du Christ, habitée par la grâce, et elle prend dans ce cas-là la forme de la charité, ça c'est vrai. Mais la charité ne dispense jamais de la justice. Voilà. L'amour ne dispense jamais de la justice. Je vous cite quelqu'un dont on a fait... pour célébrer le premier anniversaire de sa mort, alors c'est pas non plus un père de l'Église, mais c'est un excellent acteur, Jean-Pierre Bacri, qui dans une interview disait « Je n'ai pas besoin que vous m'aimiez, rendez-moi la justice, traitez-moi justement, c'est la plus belle preuve d'amour. » Traitez-moi justement, c'est la plus belle preuve d'amour. Et puis, je dirais que d'un point de vue humain, la justice se manifeste aussi par l'amitié, que ce soit dans le couple, ce qu'on appelle l'affection conjugale, l'affection paternelle et maternelle, donc l'affection que les parents éprouvent pour leurs enfants, c'est aussi une relation de justice. Il est juste d'aimer ses parents, il est juste d'aimer ses enfants, même si, je dirais spontanément, normalement, on aime ses parents et on aime ses enfants. L'amitié fraternelle est vertueuse aussi au sein d'une même cité. Le but de la politique, c'est aussi d'exprimer, de manifester cette amitié. ou d'une même patrie. Et elle en est même le fruit. Je dirais que la concorde ou la fraternité, c'est le fruit de cette amitié politique. Alors ça n'empêche pas du tout les, surtout en période électorale, mais les dissensions. Mais on peut penser, on peut espérer qu'il y a quand même un accord sur les valeurs fondamentales qui fondent une communauté politique.
Par définition, puisqu'ils sont quand même, même s'ils restent, s'ils sont en opposition, ils restent dans le même système.
Alors oui.
Ils siègent dans la même assemblée.
Ils partagent la même buvette. Oui, c'est sûr. Oui. Non, mais. Alors,
ils votent les mêmes lois.
Oui, alors. En tout cas, effectivement, on peut espérer, mais bon, malheureusement, cette concorde ou cette souvent, en tout cas, se mesure, tu dirais, se touche, hein, soit à l'occasion de la victoire de la France à la Coupe du Monde de football, qui est arrivé deux fois, mais bon, soit malheureusement à l'occasion des attentats, effectivement. Hein, mais enfin, voilà, on pourrait aussi espérer un système ou espérer, en tout cas, où cette concorde peut-être se manifeste plus. C'est justement, pour cela, il faut établir des relations, d'authentiques relations de justice entre les citoyens d'un même pays. Voilà.